BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euronet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous allons parler des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, le fameux plombier polonais. Manuel Valls, Premier ministre, a enjoint la Commission européenne de modifier la directive de 96 sur, précisément, les travailleurs détachés, afin d'obtenir un alignement des cotisations sociales au niveau européen. Mais, dans le même temps, on a appris qu'un salarié français payé au SMIC coûtait moins cher à son entreprise que son équivalent polonais ou portugais ou roumain détaché en France. Et ça, c'est selon la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault. Il y a quand même 100 euros d'écart. Bonjour Elisabeth Morin-Chartier.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée de la famille PPE, Les Républicains, et vous êtes co-rapporteur ici au Parlement européen sur la question des travailleurs détachés. Faut-il réformer cette directive de 96 sur les travailleurs détachés ?
Oui, mon travail est effectivement de réformer, réviser la directive de 96 sur les travailleurs détachés. Pourquoi ? Parce qu'en 96, l'Europe, c'était 15 États membres et des écarts de salaire minimum de 1 à 3. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'Europe, c'est 28 États membres, 27 si on veut, on va voir.
Et enfin, si on veut, on n'a pas le choix. Ouais.
Des écarts de salaire qui vont de 1 à 10. Donc on voit bien que cet écart des salaires fait qu'aujourd'hui, il y a un gouffre pour jouer sur le dumping social.
Il faut réformer la directive de 96 sur les travailleurs détachés. Bonjour Christine Revaud-Dallonne-Bonnefoy.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée socialiste, vous suivez également cette question des travailleurs détachés de près. En attendant, il faut réformer, mais c'est important, c'est la libre circulation. Les travailleurs détachés, c'est quand même un des fondements de l'Union européenne.
Oui, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de règles. La libre circulation ne peut pas se faire n'importe comment. Moi, je suis dans la commission des transports. Et la question des travailleurs détachés et la directive qui a 20 ans aujourd'hui n'est toujours pas respectée dans ce domaine-là. Donc, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai problème de différence de traitement, de niveau de rémunération et pas forcément de salaire qu'il faut absolument accompagner.
Bonjour Charles Barcy. Bonjour, de la Fondation Robert Schuman. Le problème là-dedans, finalement, c'est les abus, essentiellement. Ou bien il y a un problème d'encadrement et c'est les directives et ce sont les textes qui sont trop approximatifs.
Les deux. Vous avez des textes qui sont un peu obsolètes et ça a déjà été souligné. Et puis surtout, il y a la responsabilité du suivi, de l'encadrement, du contrôle, parfois de la punition qui dépend là des États membres et puis aussi de la coopération bilatérale entre les États parce que vous avez toujours quelqu'un qui arrive d'un État et qui va dans un autre. Et là, les deux doivent coopérer, notamment sur les questions sociales.
Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. De Libération, du bloc coulisses de Bruxelles. J'adore vous poser des questions dont je connais la réponse. Est-ce que Manuel Valls, le Premier ministre, a raison de dire si on ne change pas les règles de cette directive sur les travailleurs détachés, s'il n'y a pas un alignement des charges sociales, la France arrêtera de l'appliquer ?
De la part d'un Premier ministre de la République française, je trouve que c'est d'une gravité extrême. Il appelle à la violation tout simplement de l'état de droit. Moi, si je ne suis pas content d'une loi, je vais aussi dire que j'arrêterai, si elle n'est pas modifiée, je vais arrêter moi-même, en tant que citoyen, d'appliquer cette loi. Je veux dire que là, c'est grave. Il donne de mauvais exemples à la fois aux autres pays européens, parce qu'après tout, qu'est-ce qui empêchera les Polonais, les Hongrois, etc., de faire la même chose, et puis aux citoyens français. Si vous n'êtes pas content d'une loi, ne l'appliquez pas.
Mais les Polonais et les Hongrois l'ont fait avec leur carton jaune. Donc, ce que dit Manuel Valls,
c'est un droit. C'est
un droit. Le débat est lancé. Faut-il réformer la directive sur les travailleurs détachés? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, hashtag 500 MM. Alors, on va partir un petit peu dans les définitions. D'abord, un travailleur détaché, de quoi s'agit-il ? Ce sont des salariés qui réalisent des missions ponctuelles dans un autre pays de l'Union que celui dans lequel ils travaillent en temps normal. Ça ne concerne pas, pour autant, les expatriés. Mais on y revient, Elisabeth Morin-Chartier. Donc on dit que ce sont des travailleurs pour une durée limitée. Alors ça veut dire quoi une durée limitée ?
C'est justement l'objet de la révision de cette directive que de savoir ce qu'est un travailleur détaché et comment on compte ce détachement.
Parce que pour l'instant, il n'y a pas de durée précisée dans la directive de 96.
De durée limitée. Justement, la proposition est de limiter le détachement à 2 ans. Mais attention, moi, je veux que dans cette révision, il y ait, et en tant que rapporteur, je vais y faire très très attention, vous pouvez me croire, il y ait une définition de à partir de quel moment peut-on être détaché. Est-ce qu'il y a un lien antérieur entre le travailleur détaché et l'entreprise qui détache? Ou est-ce qu'on peut recruter quelqu'un pour justement tout de suite le détacher? Ça, il peut y avoir un premier abus là-dessus. Et puis, deuxième abus qu'il faut essayer d'éviter.
On verra ensuite si Jean Quatremer a compris. Hein.
Deuxième abus qu'il faut limiter. Mais, par exemple, Jean, je vais vous expliquer, c'est très simple. Est-ce que vous pouvez travailler du jour au lendemain pour être détaché pour l'entreprise X polonaise qui va vous envoyer travailler en Espagne? Ou est-ce que vous travaillez déjà depuis, par exemple, 3 mois dans cette entreprise et que là, elle peut vous envoyer en Espagne pour vous... Vous avez compris là maintenant? Pour un
mercenaire
travail.
Professionnel ou pas?
Donc, deuxième point. Est-ce que... vous pouvez, par petit contrat de 6 mois, de 4 mois, etc., dépasser les 2 ans ou pas? Pour moi, les 2 ans doivent être un temps fini et il doit
deux
même
ans
pouvoir...
2 ans à l'étranger.
2 ans à l'étranger.
Et vous rentrez.
Point, et vous rentrez. Et il faut que l'on soit extrêmement rigoureux là-dessus et sur les contrôles.
Ah, justement, on va y revenir. Hein. Le manque de contrôle, c'est finalement le problème aussi dans ce dossier-là. Christine Revaud-Dallone, les conditions de travail et de salaire qui s'appliquent pour un travailleur détaché sont celles du pays d'accueil et les charges sociales appliquées sont celles du pays d'origine. A priori, il ne faut pas toucher à ça.
À mon avis, il va falloir aller vers une harmonisation parce qu'il y a une vraie différence qui n'est pas tenable à terme. Mais déjà, attachons-nous à respecter la directive actuelle et à mettre en place des systèmes de contrôle et de sanctions. Parce que je le dis et le répète, dans le secteur des transports et notamment le transport routier, il n'y a pas de contrôle par un certain nombre d'États. Et j'entends des collègues au Parlement européen, plutôt du bord de la droite, plutôt des pays d'Europe centrale et de l'Est, et qui considèrent qu'il n'y a pas à appliquer cette directive, qu'il n'y a pas à avoir de contrôle, et que les entreprises doivent pouvoir faire comme elles l'entendent, et il faut arrêter avec toutes ces règles. Non, c'est pas possible. À un moment donné, et il faut parler de liberté de circulation, mais il faut qu'il y ait des règles et une harmonisation à un moment donné. Et ça passe déjà par ce contrôle
Charles
qui n'existe
de Marcy.
Pas.
Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que cette question de durée est fondamentale et est-ce qu'on peut le faire pour plusieurs entreprises ou pas. Sur certains accords, la France et la Belgique, par exemple, vous pouvez le faire pour une entreprise, mais si vous changez d'entreprise, votre contrat de travailleur détaché est terminé et l'état d'accueil doit l'accepter à un moment. Donc il ne peut pas devenir détaché pour 2 ou 3 entreprises sur une période de 6 mois, 2 ans ou 3 ans. Donc ça, c'est un premier élément.
Parce qu'après, il y a des abus.
Il y a des abus. Le second, c'est qu'il y a un accord entre les sécurités sociales pour que le travailleur détaché puisse se faire soigner et puis la sécurité sociale française, si vous êtes français en Belgique, puisse vous couvrir à ce moment-là. Donc vous avez un accord mutuel bilatéral entre les deux sous le cadre général de la directive de 96. Et puis le troisième point, et vous l'avez déjà cité, c'est que la directive de 96 s'adaptait pas en fait au modèle aujourd'hui avec ces États qui sont contents d'avoir leurs travailleurs qui puissent justement faire ce travail à l'étranger, qui sinon ne serait pas embauchés. Et donc vous avez une réelle fracture, vous l'avez déjà cité, entre ceux finalement qui émettent et ceux qui reçoivent. Et la nouvelle proposition de la Commission, qui date de mars ou d'avril par la commissaire Thyssen, essaye d'y pallier, mais on n'y est pas encore.
On s'occupe des questions d'emploi, la flamande.
Et donc on reste sur cette fracture fondamentale.
Alors ça nous a fait des vacances, on n'a pas trop entendu 4 mètres jusqu'ici, mais maintenant...
oui, je me lance. Non mais ce que montre cette affaire des travailleurs détachés, c'est l'incapacité de l'Union européenne à prévoir. Et ça, c'est un problème fondamental. Parce que l'affaire des travailleurs détachés, elle n'est pas récente. Ça fait très longtemps qu'on voit le problème arriver. On n'a pas attendu 2016 pour s'en apercevoir. Dès 2005, parce que tout à l'heure, vous avez un peu mélangé avec le plombier polonais, qui était une autre problématique, qui est celle de la libre prestation de services. C'est pas exactement la même chose. Et la question des travailleurs détachés vient se greffer sur la libre prestation de services. C'est deux problématiques légèrement différentes. Ben, c'est pas grave.
Si c'était pour dire ça, c'était pas la peine de prendre la parole, hein, Jean Quatremer.
On vous pardonne. Mais dès l'élargissement, on savait que ça allait se poser. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû se dire, mais attendez, il faut réviser l'ensemble des textes. Mais on va aller plus loin. L'ensemble des textes européens qui régissent la libre circulation des travailleurs, tant les travailleurs détachés que les travailleurs expatriés, ce sont des textes qui, en fait, ont un modèle années 60 dans la tête. C'était effectivement la mission temporaire entre pays de niveau de développement à peu près équivalent ou des gens qui émigrent définitivement dans un autre pays. Et on n'a pas tenu compte du fait des changements profonds des questions de mobilité. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des textes en matière de sécurité sociale, c'est typique. Il y avait le règlement de 71, on l'a un peu modifié en 2004, il est entré en vigueur en 2010. Mais la sécurité sociale et l'harmonisation de la sécurité sociale, il faut tout remettre à plat. Parce que quand on vous dit Il faudrait que, par exemple, la question, il faudrait une harmonisation sociale. Oui, mais je veux dire que moi, par exemple, en tant que Français, je veux rester. Mon but dans la vie, c'est d'être rester rattaché à la sécurité sociale française.
Et pourquoi ?
Parce que la sécurité
parce
est protectrice.
Mais
je ne veux pas passer
vers une protection européenne.
Oui, mais demain, si je suis envoyé, si je suis envoyé en Bulgarie,
faire l'Europe, achever l'Europe, c'est.
Non, mais attendez. Il y a quelque chose que vous oubliez l'année l'autre. C'est que
Elisabeth Morin-Chartier rappelle au règlement.
Voilà. Il n'y a pas des pays émetteurs et des pays récepteurs.
J'ai pas parlé de
un
ça.
Même
j'ai
pays,
parlé
je termine. Un même pays peut être émetteur et récepteur. C'est le cas de la France. Et donc c'est la raison pour laquelle moi, en tant que rapporteur sur cette nouvelle directive,
il y a 230 000 faire... travailleurs détachés en France.
Au moins 230
déclarés.
Déclarés.
Il y a plutôt 350 000 travailleurs détachés en France et 280 000 Français. Travailleurs détachés à l'étranger.
D'accord.
Et donc on a un seul... la raison de mon intervention, c'est qu'il faut faire une directive qui soit équilibrée et qui convienne à la fois aux travailleurs roumains en France et aux travailleurs français à l'étranger. Il n'y a pas du tout intérêt à faire des politiques de bloc les uns contre les autres. Ça, c'est mon travail de concertation et de construction de cohésion.
Sur vous
et je continue.
Un
et je
point,
continue
c'est de supprimer les propositions de la Commission
pour ne pas mettre
de transport en même
routier.
Temps.
Il ne faut pas.
Madame Morin-Chartier termine et puis vous
il
précisez votre pensée.
Il ne faut pas du tout et laisser croire que. Le problème est un problème entre la droite et la gauche, comme vous avez essayé de le laisser suggérer. Le problème est un problème qui est entre les pays qui sont entrés après 2004 et les pays qui sont, j'allais dire, plutôt de l'Ouest et fondateurs de l'Europe. C'est là la vraie division.
Christine Revaud-Allemagne, votre précision.
Et là-dessus qu'il faut
précision.
Construire le consensus.
Il y a les deux dans la commission
excusez-moi,
transport.
Excusez-moi, je connais bien le problème.
Dans Christine la commission Revaud-Allemagne, des transports, je peux vous indiquer pour le rapport sur le dumping social, qui est aussi un rapport du Parlement européen qui est conduit par mon collègue Guillaume Ballas.
Christine Revaud-Allemagne, votre précision.
Merci beaucoup de me laisser parler, ça me fera
s'il
plaisir. Dans ce rapport et toutes les mesures qu'on a mises pour justement l'application et le respect de la directive des travailleurs détachés dans le domaine des transports, le PPE dans sa globalité, donc toute la droite, a voté contre. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Et ce sur quoi je compte vraiment sur vous, sur la révision de la directive, c'est
en
la proposition. Voilà. Dans la proposition de la Commission, il y a un considérant numéro 10 qui demande à exclure le secteur des transports routiers de l'application de la révision de la directive. Et ça, je compte sur vous pour faire en sorte que l'esprit de la directive de 96 et notre volonté commune fasse que les transports routiers soient aussi considérés par ce point-là. Je compte sur vous.
Alors, ça n'a rien à voir avec le débat, mais la citation que je retiens de cette toute première partie, c'est « Mon but dans la vie, c'est d'être rattaché à la sécurité sociale française. » Jean Quatremer de Libération. voilà, Christine Revaud-Allemagne, bonne foi, Elisabeth Morin-Chartier, Charles de Marcy, Jean Quatremer, vous restez avec nous. Juste après un court message publicitaire, on continue de débattre des travailleurs détachés dans 500 millions d'Européens. Tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous sommes détachés, ici, nous allons parler justement des travailleurs détachés avec Charles de Marcy, la Fondation Robert Schuman, Jean Quatremer de Libération, Christine Revaud-Allemagne, bonne foi des socialistes français, eurodéputés, et puis évidemment Elisabeth Morin-Chartier qui est co-rapporteur sur cette question. Nous parlons donc des travailleurs détachés. On l'a dit, c'est assez étonnant. Il paraît que, eh bien, un Polonais aujourd'hui coûte moins cher qu'un en termes de charges sociales qu'un Français. Ça, on l'a découvert. Un salarié français payé au SMIC coûte moins cher à son entreprise que son équivalent polonais ou portugais ou roumain. Payé au SMIC aussi. On parle quand même de 100, 150 euros de différence. 230 000 officiellement travailleurs détachés, essentiellement polonais, mais aussi portugais et roumains en France. Et puis les secteurs de loin qui occupent de la main d'œuvre détachée, eh bien c'est le BTP, plus d'un tiers, 37% des travailleurs détachés œuvrent dans le BTP et puis également dans l'intérim et dans l'industrie. Nous allons maintenant nous intéresser aux abus et notamment aux questions de sous-traitance dites en cascade. On vous donne un cas concret qui avait été épinglé, des travailleurs détachés polonais qui œuvraient sur le chantier de l'EPR de Flamanville avait été recruté par une agence d'intérim dont les bureaux se situaient à Chypre, mais qui était basée en Irlande. Voilà, c'est contre ça qu'il faut lutter, Elisabeth Morin-Chartier ?
Il faut absolument lutter d'abord contre les sociétés boîte aux lettres. Ça, c'est notre premier objectif. Et contre les agences d'intérim, dont le seul métier exclusivement est de recruter des travailleurs détachés pour les détacher. Ça, c'est la première cible, société boîte aux lettres, agence d'intérim. C'est la racine de ce marché du travail détaché. Le deuxième point, c'est que notre directive doit être le socle de l'Europe sociale. Et en étant le socle de l'Europe sociale, nous devons en même temps lutter contre la sous-traitance en cascade. Et dans la directive d'application d'avril 2014, nous avons déjà défini que nous devons lutter sur la sous-traitance en cascade jusqu'au septième niveau de sous-traitance. C'est vous dire quelle industrie aujourd'hui il y a du travail détaché. C'est-à-dire qu'un fabricant automobile, par exemple, peut sous-traiter la fabrication de son bloc, de son commodo de direction, son poste de pilotage, mais ensuite sous-traiter le volant, sous-traiter le gainage du volant, etc. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc là, nous devons absolument, en construisant cette Europe sociale, lutter contre ces sous-traitances en cascade, parce qu'il faut remonter au donneur d'ordre. Et c'est lui le responsable.
Christine Vaudalon, bonne foi.
Oui, ben, c'est bien la preuve que avoir fait l'Europe que pour les marchés nous amène à des situations complètement ubuesques où, pour des questions d'évasion fiscale et sociale, on en arrive à ce qui est parfaitement décrit par ma collègue. Donc il faut vraiment revenir à l'Europe des citoyens. L'Europe sociale, c'est ça, c'est l'Europe des citoyens, pour aussi que ça leur parle et qu'ils se rendent compte que l'Europe est protectrice et pas simplement là pour permettre à des entreprises de faire des bénéfices en contournant tout le temps, toujours plus, les directives européennes.
Parce que là, on voit bien, dans le cas donné de ces travailleurs détachés sur le chantier de l'EPR de Flamanville, avec ces sociétés qui passent par Chypre, par l'Irlande, où on récupère certains avantages fiscaux ou sociaux en Irlande, et puis des avantages fiscaux
et on évite surtout
à Chypre,
de payer
avec des travailleurs
les
polonais.
Charges, on voilà. Évite surtout de payer les cotisations sociales là où on devrait les payer.
Jean Quatremer.
On ne participe pas à ça.
Non, mais la question fondamentale, je crois que c'est celle que vous avez évoquée, qui est celle de la responsabilité du donneur d'ordre. C'est-à-dire que pour lutter contre les abus, effectivement, il faut des contrôles, des inspecteurs du travail qui viennent sur place et qui fassent leur boulot. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que globalement, le contrôle n'a pas lieu. On y assiste, par exemple, dans les abattoirs en Bretagne, etc. Il y a des abus absolument manifestes qui sont écrits dans les journaux. Est-ce que ça déclenche pour autant des contrôles par l'État ? Non. Et là, en l'occurrence, l'État en France, je suis désolé, il est jusqu'à présent dirigé par des socialistes. Et ils n'arrivent pas à faire bosser leurs inspecteurs du travail, à les faire des contrôles. Ensuite, il faut que, effectivement, le donneur d'ordre, donc en l'occurrence...
Ça, c'est déjà le cas. Ça a déjà été adopté par le Parlement.
Oui, il y a mais deux ans. C'est le travail. Les États ne font pas leur travail de contrôle.
De contrôle.
Attendez. Et la responsabilité d'un ordre d'ordre, elle a été limitée dans la directive dans le domaine du BTP, si mes souvenirs sont bons. Hein, c'est ça. Et il faut l'étendre à tous les secteurs. Parce que le jour où le type qui fait pas seulement des travaux, mais qui commande quelque chose, est responsable de l'ensemble de la voiture et qui devra payer, je peux vous assurer que Renault contrôlera ses sous-traitants. Etc. Et en cascade.
Alors,
c'est
quels sont, au niveau des sanctions, les donneurs d'ordre qui ont donc des sous-traitants qui commettent des fraudes, voilà. Ils encourent une amende de 500 000 euros contre 150 000
pour le BTP.
Avant.
Pour le BTP.
Donc, ça, c'est peut-être pour le BTP.
BTP.
J'ai pas la précision.
Ah, oui.
Et puis, ils s'exposent à une suppression des aides publiques durant 5 ans. Charles de Marcy.
Je pense que la vraie question, c'est la mise en œuvre en fait de ce qui a été validé, et c'est la directive d'exécution. Et on voit qu'en juin, il y a encore la moitié des États qui ne l'avaient pas transposé et mis en œuvre. Donc il y a une vraie fracture, pas seulement politique, peut-être sur certains aspects, mais il y a une vraie fracture entre les États
géographiques
et qui ont le sentiment qu'on veut contrôler leurs ressortissants encore plus les empêcher d'aller travailler
à
l'étranger. Donc ça, il faut, oui, évidemment qu'il faut l'assumer. Mais c'est pas assumé. Et donc, tant qu'on aura cette fracture, tout ce qui sera proposé par la commissaire Thyssen, puis ensuite par le Parlement européen, va se retrouver avec ce bloc contre bloc, pour reprendre des images historiques, et qui pose un problème de fond, parce que, in fine, on ne pourra pas en fait changer la règle. C'est pour ça que même la directive et la directive d'exécution qui avait été présentée, c'était 2012, on a mis 2 ans ensuite pour pouvoir l'accorder, ça arrivait en décembre, et c'était très compliqué en décembre 2013, on doit le mettre en œuvre depuis juin, c'est toujours pas fait, et on va renouveler en fait toujours ce processus, parce qu'il n'y a pas cette harmonisation soit vers le haut, soit cette approche commune en fait du contrôle.
Mais pourquoi ça s'est passé comme ça, encore une fois? Il faut voir, tout à l'heure j'ai accusé l'Union européenne, en fait il faudrait pointer les responsabilités. La Grande-Bretagne, qui quand même, c'est quand même extraordinaire, quand j'entends l'extrême droite qui nous explique que la Grande-Bretagne va pouvoir ne pas négocier des traités transatlantiques, alors que c'est eux qui sont à l'origine, qui vont pouvoir dénoncer la directive travailleurs détachés. C'est eux les travailleurs détachés. Je veux dire que ceux qui n'ont pas voulu modifier les textes, c'était justement les libéraux ou ce que vous appelez vous les socialistes, les ultra-libéraux, donc en l'occurrence la Grande-Bretagne, qui a tout fait pour qu'on ne règle pas ce problème avant. Et maintenant, il devient finalement difficile à régler parce que les pays d'Europe de l'Est, c'est 10 pays. Tout à l'heure, vous évoquiez les... c'est 11 ? 11 pays, voilà. 11 pays d'Europe de l'Est, là, qui ont, par exemple, il y a une proposition de modification de directive faite par la Commission, et il y a une nouvelle procédure qui a été instaurée par le traité de Lisbonne, celle du carton jaune. Donc, quand il y a des parlements nationaux trouvent que la Commission va un peu loin, eh ben, on lève le carton jaune. Eh ben, tous les parlements nationaux d'Europe de l'Est, plus le Danemark, je sais pas ce qu'il va faire le Danemark là-dedans, je crois que c'est des raisons de principe, eh ben, sont intervenus en disant, carton jaune. Donc, ça veut dire que là, on va avoir un choc frontal et qu'il va falloir assumer.
Elisabeth Morin-Chartier.
Bon. Moi, je voudrais apporter quelques précisions pour qu'on comprenne bien la problématique. Le contrôle, il est de la responsabilité des États. Voilà. La directive d'exécution.
Et ça ne marche pas.
La directive d'exécution, elle doit être exécutée à partir du 18 juin dernier. Les chefs d'État et de gouvernement sont responsables. Et en France, nous avons un corps d'inspection, mais ce corps d'inspection, il doit aller travailler le samedi et le dimanche.
Voilà,
parce que c'est là que ça se passe sur les chantiers de BTP.
Moi, je le sais.
Et je peux vous dire, grands chantiers comme à Saint-Nazaire, etc., sur les constructions de grands...
Avec des soudeurs et des chaudronniers polonais.
Deuxième point. Je voudrais quand même aussi...
C'est terrible, Elisabeth Morin-Chartier, parce qu'elle part toujours sur 1, 2, 3 points, et du coup, c'est difficile de la couper.
Bien sûr, vous me connaissez bien. Mais le deuxième point,
donc le second.
très équilibré, parce que les travailleurs détachés, c'est pas la bête noire, c'est pas la bête à abattre.
Ah non.
C'est que parfois, on en a
c'est
besoin.
C'est pas ceux qui viennent voler notre pain,
comme dirait
M. Mélenchon. C'est important.
Je vais vous dire un exemple. Dites-moi ça, Jean. Je vais vous donner un exemple. Après la tempête Xynthia, tempête qui met des troncs partout à bas dans les forêts, qui peut faire du débardage? Nous n'avons pas les débardeurs en France. Il faut faire venir des Roumains. Aujourd'hui, dans le BTP, nous n'avons pas de carleurs. D'où viennent les carleurs? Des carleurs hongrois. Aujourd'hui, en matière de médecins, et nous avions des numerus clausus, et là, et la droite et la gauche sont responsables. Le numerus clausus fait que nous n'avons pas la relève en matière de médecine. D'où viennent nos médecins aujourd'hui? Les compétences, elles sont roumaines. Oui, il y a des travailleurs détachés compétents et des travailleurs détachés dont nous
Christine
avons besoin.
Mais
c'est sur cela que nous allons faire.
J'aimerais revenir sur la question des contrôles. Alors oui, ça doit être fait par les États membres. Et oui, on a un manque de personnel, d'inspecteurs du travail en France. Ils sont insuffisants, mais dans tous les États, et aussi parfois la volonté de la part des États de le faire. En revanche, ce sur quoi on pourrait travailler au niveau du secteur des transports, on a fait une proposition dans ce fameux rapport dumping social qui, j'espère, va tenir jusqu'au bout, c'est d'avoir une agence européenne de contrôle des transports qui chapeaute et qui harmonise les différents contrôles nationaux.
Une agence européenne de contrôle. Vous êtes d'accord avec ça, Elisabeth Morin-Chartier, en 5 secondes?
Oui, tout à fait. J'ai même bien des idées là-dessus.
Vous avez bien des idées là-dessus.
Il y a un corps européen de garde-frontières. Pourquoi pas un corps européen d'inspecteurs du travail?
Absolument. Ben
pourquoi pas, voilà. Eh bien, une nouvelle
L'Europe
proposition.
Sociale. Michel Barnier l'avait proposé. Déjà, quand il était commissaire.
Et puis, sachez que donc, visiblement, on manque de débardeurs en France, mais vous verrez sur les plages, Jean Quatremer en Marseille,
absolument,
en débardeur.
D'ici quelques jours.
D'ici quelques jours. Charles de Marcy, Elisabeth Morin-Chartier, Jean Quatremer, vous restez avec nous parce que Maya de la Baume va nous rejoindre, ainsi que Éric Scholl. Merci beaucoup, Christine. Christine Revaud-Allonne Bonnefoy, merci. Eurodéputée socialiste française, membre de la commission du transport, d'avoir été avec nous. À très bientôt. Juste après, on parlera de Martin Schulz. Et puis, dans la revue de presse européenne, on fera aussi un tour d'Europe en Belgique, en Slovénie, en République tchèque et aux Pays-Bas. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Nous sommes ici au Parlement européen à Bruxelles. Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours en compagnie d'Elisabeth Morin-Chartier, eurodéputée Les Républicains, co-rapporteur ici dans cette illustre assemblée sur la question des travailleurs détachés qui, à mon avis, pourrait alimenter la prochaine campagne présidentielle en France. Charles de Marcy, l'éminent directeur du bureau de la Fondation Robert Schuman, est également des nôtres. Votre mère est là. Et puis Maya de la Baume, bonjour.
Bonjour Anthony.
Comment allez-vous?
Très bien.
Politico.
Très bien.
Ça se passe bien chez Politico?
Très bien.
Ouais.
Très bien.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui dans vos coulisses de l'Europe?
Du président du Parlement européen, Martin Schulz, qui s'accroche à son job de président du Parlement.
Ouais. Ça fait combien de temps qu'il est là, Martin Schulz?
Ça fait depuis. Il a été élu en 2012 et réélu en 2014.
Donc, ah oui, et là on est en 2016 hein, quand même.
Ouais. Et il veut être le président du Parlement européen en 2017, janvier 2017, qui sont les prochaines
élections. Mais attendez, il y a un accord normalement, parce que c'est le mandat.
Enfin, il n'y a pas d'élection.
La mandature, c'est 5 ans. La législature, c'est 5 ans.
Ouais.
Et il y a eu un accord en début de législature pour dire on fait 2 ans et demi socialiste, 2 ans et demi PPE, Parti Populaire Européen. Donc lui, là, il va arriver dans 6 mois au terme de ces 2 ans et demi et il ne veut pas lâcher, c'est ça?
Il ne veut pas lâcher, mais il aime son job, je pense.
Ah bon, voilà.
Il a raison,
c'est
pas mal.
Il bien fait. Voilà. Il a envie de rester, voilà, président du Parlement, c'est un poste à vie. Et puis, tout à l'heure, avec Éric Scholl, notre ami, eh bien, on va aller en Belgique, en Slovénie, en République tchèque et aux Pays-Bas pour sa revue de presse européenne. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
Oui, pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. Bon, parlez-nous de notre ami socialiste allemand, Martin Schulz, qui a une personnalité quand même assez géniale. C'est, honnêtement, je trouve que c'est un bon, il fait le job, il parle, il n'a pas de langue de bois, il fait le job au Parlement européen.
Oui, et il veut continuer à le faire justement à cause de ça, parce que je pense qu'il a rendu ce Parlement très politique, on va dire. Le problème, c'est qu'il vient d'être soutenu par Jean-Claude Juncker, qui maintenant dit... On veut garder Schulz parce qu'on veut de la continuité.
Bah, attendez, Jean-Claude Juncker, c'est le président de la Commission européenne.
Oui, mais il y a eu cette interview qui a été publiée dans Spiegel, qui a fait pas mal de, comment dire, de bruit au Parlement européen, notamment au sein du Parti populaire, enfin du PPE, puisque il y a ce contrat avec les sociodémocrates qui fait que le prochain président devrait être un membre du Parti conservateur, donc du PPE. Ce qui fait que Juncker, qui lui-même est issu du PPE, est en train de donner une sorte de... Enfin, est en train de soutenir quelqu'un qui, finalement, ne devrait pas soutenir.
Donc, ma compréhension, ouais. Jean Quatremer ou Charles de Marcy, ma compréhension du Schmilblick, alors je comprends pas toujours ce qui se passe ici à Bruxelles, mais que c'était le Parlement européen qui désignait le président de la Commission européenne. Maintenant, c'est quoi? C'est le président de la Commission européenne qui désigne le président
non,
du Parlement européen?
Je crois que le fait politique est quand même important. C'est-à-dire que la tête de liste PPE, donc des conservateurs, dit bah ça serait bien que les socialistes gardent le Parlement européen. Ce qui n'est pas forcément totalement indigne, sachant que c'est vrai que la Commission est dirigée pendant 5 ans par un conservateur. Le Conseil européen, le prochain président, sera soit un libéral, soit un conservateur, en tous les cas pas un socialiste. Et c'est vrai que la troisième institution sera présidée de nouveau par un conservateur. Ça fait beaucoup de conservateurs un peu partout. Donc forcément, un équilibre n'est pas... serait pas indigne. Et il y a ce fameux accord auquel vous faites référence et qui je sens que vous êtes très attaché. Parce qu'effectivement, ça a été signé, la lettre a été signée, elle existe. Le problème qu'a le PPE aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de candidat incontesté.
Et ça, ils ont trois candidats.
Oui,
donc on parle beaucoup
voilà,
de la gloire.
C'est qui les trois candidats?
Il y a Alain Lamassoure,
donc le chef de la délégation française.
Il y a Antonio Tajani.
Ancien commissaire européen, ancien ouais. porte-parole de Silvio Berlusconi, et qui est chef de file des Italiens PPE. Ouais.
Et ensuite... une Irlandaise qui s'appelle Mairead McGuinness, ouais. qui est PPE voilà, irlandaise. Donc et du coup, il y a ces bruits de couloirs qui circulent. Ben Lamassoure, je pense qu'on le sait maintenant, vraiment.
Il est dans votre délégation, il a toutes ses chances, Alain Lamassoure, Elisabeth Morin-Chartier.
C'est mon chef de délégation. Moi, je siège au PPE. Ouais. Je ne suis pas dans les conservateurs, parce que les conservateurs, c'est les Britanniques. Hein. Moi, je siège au PPE, et l'accord, il est entre le PPE, le Parti Populaire Européen, et les socialistes. Je me permets de le préciser. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le timing. Le timing du Parti Populaire Européen, c'est à l'automne et c'est au mois d'octobre que devrait être désigné à l'intérieur du PPE le ou les candidats qui vont concourir. Donc aujourd'hui, je comprends que cela intéresse beaucoup de gens, mais nous ne sommes pas à l'époque de la désignation. Ça, c'est premier clair. Et il y aura en particulier, nous aurons un bureau extérieur à Bucarest, dernier week-end dernière semaine
d'accord,
de septembre.
D'accord, mais ça, c'est de la technique. D'accord, mais il y a bien un candidat qui émerge. C'est quoi ? C'est Alain Lamassoure. Ce serait bien que ce soit enfin un Français. On a des Allemands partout. Les Allemands sont à la tête de toutes les institutions
oui,
ou bien ils dirigent tout à Bruxelles.
Ce serait
bien d'avoir un Français. Est-ce que c'est autour d'un Français ?
Ceci n'est pas décidé. Si mais, c'était décidé, je serais très
vous,
à l'aise pour vous le dire.
Ça peut
être un Français, ça peut être un Italien.
Est-ce que ça pourrait être une femme?
Ça peut être une femme.
Est-ce que ça devrait être une femme?
Ça pourrait être une femme française. On a eu finalement des présidentes de Parlement européen. Elles ont toutes été françaises.
Nicole Fontaine.
Oui. Nicole Fontaine et Simone Veil. Bon. Pour ça, il faut avoir une certaine expérience.
Non, parce que moi, je me disais, Elisabeth Morin-Chartier, présidente du Parlement européen, ça aurait de la gueule.
Eh ben, exactement que ça aurait de la gueule. Et en plus, je peux vous dire que moi, j'ai déjà présidé un conseil régional pendant plusieurs années. Donc, je sais ce que c'est que la présidence d'une institution comme ça.
Vous n'êtes pas candidate, quand même.
C'est trop tôt.
On est proche d'un acte de candidature, quand même.
Je vous souhaite un bon été, Yann Anthony.
Charles de Marcy.
Je viens être le premier à vous féliciter pour cet acte de candidature.
Elisabeth Morin-Chartier n'a pas fait acte de candidature. Elle a dit que ce n'était pas encore le moment.
Oui, je vous taquine. Mais qui doit tenir compte, en fait, de l'équilibre de la grande coalition. Et ce que vous disiez, Jean, c'est que si on a un PPE au Parlement européen et un PPE à la Commission Jean-Claude Juncker, qui, lui, est sur les trois d'ailleurs postes, est le seul sur 5 ans, puisque les autres, il y a une révision à mi-mandat, y compris pour le président du Conseil, ça pose un problème par rapport à cet accord de la coalition. Donc, si on a un PPE au Parlement, est-ce que ça veut dire qu'on doit changer le président du Conseil et encourager un socialiste pour garder cet équilibre du 2 pour 1 ? Donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte.
Maya ?
Oui, vous parlez de timing, mais moi, je trouve qu'on est quand même... Ah, même pas 6 mois de la nomination du président du Parlement européen qui n'est pas n'importe quelle institution.
C'est une élection interne.
Et tout le monde nous dit aussi c'est la même chose, c'est trop tôt, mais finalement c'est pas si tôt que ça.
C'est une élection interne.
Oui, mais c'est le président du Parlement européen.
Moi, je sais ce que c'est que de faire une campagne sur le terrain avec 9 millions de citoyens qui doivent voter. Là, vous devez vraiment aller sur le terrain et aller parler de votre programme, etc. Ici, ça se passe à l'intérieur du Parlement européen. 751 députés. C'est pas du tout la même chose. Je dirais presque, pour prendre une comparaison que vous comprendrez bien, c'est une élection de sénateurs.
Oui, mais on entend tellement parler de Schulz et de son désir d'avoir un troisième mandat et que j'ai pas l'impression que ça plaise à tout le monde. Ça.
Et lui, il fait campagne.
Et il fait campagne d'une façon, il briefe les gens pour que les
gens briefent ses députés. Il y a un problème Schulz quand même au sein du Parlement européen. Il faut pas non plus le nier. Tout à l'heure, vous faites allusion au fait que les Allemands étaient partout au sein des institutions européennes. Et pourquoi sont-ils partout ? Non pas par volonté hégémonique, que plutôt par absence des autres États, notamment la France, qui est incapable, et ça quand même, il faut le dénoncer, il va falloir un jour faire une émission entièrement là-dessus,
bon,
qui est incapable.
Il faut commencer,
là, il faut taper encore plus fort, parce que depuis l'émission de Pierre Sénal, la France a perdu le service européen d'action extérieure, où un Français a été remplacé par une Allemande, c'est quand même problématique. Et là, au sein du Parlement, il faut voir que Martin Schulz et Manfred Weber placent leurs hommes...
Manfred Weber, qui est l'Allemand qui dirige le groupe du PPE au Parlement.
Voilà, du PPE, placent leurs hommes absolument partout. Et leurs hommes, curieusement, ce sont vraiment des hommes, il n'y a quasiment aucune femme. Et ce sont tous, curieusement, des Allemands. Donc il y a en plus un placement ethnique. Moi, je suis désolé.
Ethnique.
Ah oui, c'est ethnique. Parce que là, je veux dire que...
Ethnique.
Non, mais que...
National.
Non, mais, oui, mais que... que, que, que note qu'un président de commission, un président de parlement, place des gens de son cabinet, un anglais, un français, un lituanien, etc., dans l'institution, c'est normal. Mais là, curieusement, partout, à tous les postes de direction, au secrétariat général adjoint, etc., des Allemands. Et ça, Martin Schulz, même si c'est un excellent candidat, un excellent président de la commission, là, il y a un moment ou un autre, il va falloir poser cette question-là.
Un excellent président de la commission.
Du Parlement, pardon.
Parce que, effectivement,
il voulait y aller.
C'est son rêve.
Absolument.
Mais là, il peut peut-être encore y aller. Mais il n'est pas soutenu non plus par Berlin, même pour le.
Il n'est pas soutenu par la présidence du Parlement
européen.
Absolument. Sauf que ça pose un problème à Berlin. Parce que Berlin aimerait bien éviter de voir Schulz revenir dans le jeu politique intérieur allemand. Donc c'est pour ça que Merkel pourrait très bien le maintenir à Bruxelles pour ne pas l'avoir dans les pieds à Berlin.
Et puis le SPD n'est pas dans une situation...
Donc, en tous les cas, moi, je dis, attention, Schulz devrait faire attention parce qu'à force de placer ses nationaux partout dans l'appareil du Parlement européen, un jour, il va y avoir une révolte. Et ça, c'est... Il prend des risques.
Elisabeth Morin-Chartier, un tout dernier mot.
Je partage ce que dit Jean Quatremer et j'ajouterai quand même une chose, c'est que la déclaration de Juncker, pour moi, qui siège au bureau du Parlement européen, le soutien de Juncker à Martin Schulz, c'est pas une chose qui vient d'arriver ce matin quand on s'est réveillé. Je dois vous dire une chose, c'est que moi je vois les petits jeux se faire depuis un moment et ça fait longtemps que je vois des décisions de Martin Schulz, président du Parlement européen, pour bien arranger Jean-Claude Juncker.
Voilà, Elisabeth Morin-Chartier qui suit visiblement ses affaires de très près. Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Notre ami de toujours, le patron de la rédaction de Courrier International, le président de Reporters sans frontières. On a du lourd dans cette émission. Votre revue de presse, vue de Belgique, le bâtiment, victime du dumping social.
Ben oui, le ton monte hein, du côté des professionnels de la construction. Ils ont dressé un paysage très, comment dire, un peu terrible de ce secteur, puisqu'il souffre de dumping et d'une concurrence déloyale. Alors évidemment, qui sont visés ? Bien, c'est des travailleurs détachés. Il faut savoir, explique le journal, c'est la Libre Belgique qui parle, que le nombre de travailleurs détachés en Belgique correspond à 3,6% de l'emploi privé pour 1,4% en France ou 1% en Allemagne. Et si on prend le secteur de la construction, eh bien, il est concerné au premier chef puisque le nombre de travailleurs détachés a triplé depuis 6 ans. Et on atteint maintenant plus de 100 000 personnes. Alors, les professionnels qui sont interrogés par le journal expliquent que la solution est d'abord politique et nationale. L'Europe n'en offre aucune, regrette-t-il.
Ah, l'Europe n'en offre aucune.
C'est intéressant que cet article vienne de la Libre Belgique. Parce qu'en Belgique, effectivement, il y a énormément de travailleurs détachés. Mais on les voit sur les chantiers, les maisons qui sont construites à droite à gauche, les rénovations, etc. Et on voit bien que ce sont des Polonais, des Roumains et des Bulgares qui
ne
parlent pas un mot de
français.
Ils ne parlent pas un mot de français. Vous leur dites, est-ce que vous pourriez commencer à pas utiliser la perceuse à 5h30 du matin? Et donc, c'est pas comprendre.
Je suis sûr que vous leur demandez avec ce petit ton gentil.
Avec ce ton gentil, oui. Non, c'est plutôt du genre assez sauvage. Et vous vous apercevez, curieusement, pendant toute la durée du chantier qui peut durer 6 mois, 1 an, il n'y a jamais un inspecteur du travail qui vient vérifier les conditions d'emploi. Jamais, jamais, jamais. Les Belges ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Je compte sur vous, Jean, pour passer un coup de fil, dénoncer et pour que un inspecteur arrive.
Jamais, jamais.
Elisabeth Morin-Chartier.
Les travailleurs détachés doivent d'abord être contrôlés. Et moi aussi, je prêche pour qu'il y ait des contrôles sur les chantiers, y compris des contrôles le week-end. Par contre, je ne suis pas d'accord avec
pas
vous
le week-end.
Je ne suis pas d'accord avec vous sur le problème de parler français sur les chantiers. Je vois aussi
c'est du racisme primaire,
une initiative aujourd'hui. Attention, soyez sérieux. Je vois aujourd'hui une initiative de députés français qui ont inventé une clause dite clause Molière. Obligation de parler français sur un chantier en France. Eh bien, moi, je dis casse-cou. Parce que là, à ce moment-là, ou bien d'avoir un interprète. Je dis, vous excluez les petites entreprises, vous êtes en train d'introduire une discrimination sur les chantiers. Moi, je suis pour une législation européenne, applicable, contrôlable, qui régule le travail détaché, mais sortons de tout article qui serait discriminant et qui apporterait beaucoup plus de xénophobie qu'autre chose.
Charles de Marcier.
C'est un très bon exemple, parce que si on n'a pas une réforme au niveau européen de la directive sur les travailleurs détachés, on va voir en fait se multiplier ces petites clauses justement pour exclure. Et c'est le risque, c'est d'avoir un marché du travail encore plus fragmenté sur cette question-là.
Ça me fait penser, juste pour l'anecdote, ça me fait penser, de parler français sur le lieu de travail, à une anecdote liée à la RTBF, la télévision radio publique belge, où en fait les Flamands et les francophones partagent les mêmes locaux. Il y a juste une porte au milieu du couloir, en gros. Et côté francophone, ils avaient mis un panneau sur la porte en disant « Ici, on parle français ». C'est une façon de dire aux Flamands « Attention, ici, on parle français », etc. Les Flamands, la réponse, ils avaient mis eux-mêmes un petit panneau, une pancarte sur leur porte avec marqué « Ici, on ne travaille pas. Ici, on ne parle pas, on travaille
».
Vu de Slovénie, on enchaîne. Vu de Slovénie, bravo les Anglais, Eric.
Oui, c'est ce que explique le journal Dvenik, c'est le journal de Ljubljana, et qui salue à sa façon le Brexit, puisque l'éditorialiste explique, voilà, que nous aurons l'occasion de fêter avec les Britanniques le jour de l'indépendance. Parce qu'il faut juste se rappeler qu'effectivement, la prise d'indépendance par rapport à ce que le journaliste qualifie de la dictature des entités fédérales, et bien pour Estoven, c'était le 24 juin 1991, l'indépendance de la Slovénie vis-à-vis de la Yougoslavie. Et le journaliste se souvient toutes les menaces qui avaient été émises dans la presse internationale, et notamment britannique, à cette époque, et qui en voulaient beaucoup aux Slovènes d'avoir pris leur indépendance. Et il explique aujourd'hui, eh bien, on sait désormais qui est responsable de la désintégration de l'Union européenne, qu'il n'ose plus venir nous donner des leçons sur les dangers du nationalisme en Pologne ou en Serbie, écrit donc ce journaliste slovène.
Ah, si les journalistes slovènes s'y mettent, qu'est-ce que vous en pensez, Maya ?
Moi, je pensais que les Britanniques étaient plutôt totalement pour l'élargissement, non ? Je ne me trompe pas en disant ça.
Oui, mais je crois qu'il a inversé le raisonnement.
Non, il a inversé le raisonnement, oui.
En expliquant qu'eux-mêmes ont agi, ils étaient pour l'élargissement, et puis aujourd'hui, ils se retirent. Et donc, c'est bien qu'ils sont des nationalistes. Et ouais. Je trouve ça très amusant. Mais ça montre aussi que cet article slovène, du journal slovène, montre à quel point, au fond, le Brexit ne perturbe véritablement personne. C'est juste terrifiant pour les Britanniques. Ils sont tellement exclus du jeu qu'au fond, qu'ils s'en aillent. Voilà.
Charles ?
Oui, au fond qu'il s'en aille, après avoir quand même favorisé en effet l'élargissement, d'avoir essayé d'atténuer au maximum cette Europe politique, y compris sur les questions de défense ou de sécurité, et qu'on voit que ça avance quand même malgré eux. Un bon exemple.
Mais des pleurs, il y en aura. Des pleurs, il va y en avoir.
Oui, évidemment qu'il y en aura.
Et il va y en avoir justement sur le côté humain. Qu'est-ce qui va se passer ? Les Britanniques, quand ils vont se réveiller, ils vont se rendre compte que c'était l'Europe qui les protégeait sur le plan du travail, qui les protégeait sur le plan social, que la santé des gens au travail, que le marché, que les travailleurs détachés, c'est l'Europe qui gère tout cela. Et quand ils n'auront plus cette protection européenne, des pleurs, il y en aura. Et ça sera le côté humain qui va ressortir le premier et qui va être le plus dur
à absorber. Elisabeth Morin-Chartier, candidate à la présidence du Parlement européen, des pleurs, il y en aura. Vu de Prague, je vous taquine. Construction européenne, comment dépasser le système westphalien, Eric ? Ça, c'est une bonne question.
Il y a un journaliste tchèque du journal Hospodarské noviny qui s'interroge et qui pose sa conception sa propre conception de la crise actuelle européenne. Il explique que cette crise pousse les Européens à défendre le système mis en place par la paix de Westphalie. C'était en 1648, donc qui avait mis fin à la guerre de 30 ans. Et depuis cette époque, explique-t-il, les Européens sont habitués à vivre dans des États-nations souverains et en fait, ils s'opposent instinctivement à tout changement. Alors la question, c'est comment dépasser ce système westphalien ? Eh bien, aujourd'hui, affirme le journaliste, l'Europe a besoin d'un pas plus radical, justement, si on veut dépasser cette idéologie. Elle va venir, pour lui, de l'identité européenne.
Ah, Elisabeth Morin-Chartier ?
Et bien sûr. Moi, je dis une chose, c'est que, et le Brexit, et l'évolution des partis politiques, des votes dans les différents États européens aujourd'hui, ne peuvent que nous inquiéter parce que c'est toujours un signal de repli nationaliste qui est donné. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe doit complètement évoluer, sortir de cette vision des marchés, du marché intérieur, mais aller vers une Europe sociale, une Europe humaines qui permettent la libre circulation des citoyens, qui permettent la libre circulation des travailleurs.
Mais ça, tout le monde le dit et tout le monde le sait depuis longtemps. C'est comment le faire ? C'est ça la question.
Eh bien, on va commencer par les travailleurs détachés. Et les travailleurs détachés, croyez-moi, c'est le socle de l'Europe sociale. En tous les cas, moi, c'est comme cela que je prends mon travail de rapporteur sur cette directive. Très difficile parce qu'il va falloir construire le consensus entre des pays qui ont des histoires politiques, économiques et sociales différentes. Mais moi, je ne me donne aucun droit de retomber dans l'ornière du nationalisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est important ? La seule chose qui nous permet d'exister au niveau mondial, c'est l'Europe. L'Italie, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne qui sont aujourd'hui au G20. Dans 40 ans, y seront-elles encore avec l'évolution économique des pays au niveau mondial ? Je vous le dis non. Si on n'est pas européens ensemble, nous ne serons plus au G20, avec un pays simplement. Nous ne serons plus au G20. Et donc, ne plus être au G20, ça veut dire que toutes les grandes décisions qui concernent l'énergie, qui concernent l'environnement, etc., seront prises par
d'autres
entre nous.
Ou alors, on change le format et on en fait un G30. Charles de Marseillais.
Cette question pour les Britanniques sur les travailleurs étrangers faisait partie de l'accord du 19 février avec les autres Européens. Et pourtant, ça n'a pas pesé dans la campagne. Parce qu'ils étaient sur le travailleur étranger, ils étaient sur l'immigré, quel qu'il soit. Et donc, on a dépassé, en fait, ces critères rationnels de comment est-ce qu'on gère ces
des travailleurs détachés et migrants.
Et non, l'accord
c'est ce qu'ils ont voulu faire.
L'accord Farage, de février le dit pour les travailleurs
Farage
étrangers
a fait
européens.
Ça dans sa campagne.
Nigel Farage du UKIP. Vu des Pays-Bas maintenant, Eric, le Brexit, Paris prendra-t-elle la place de Londres ? C'est vrai que c'est une question qu'on s'était posée.
Et oui, et c'est la question que pose le site du journal NRC Handelsblatt. Où sera situé le nouveau Londres ? Et bien, il penche effectivement plutôt pour Paris. Alors, en tout cas, je vous cite, Paris, Francfort et Dublin tentent d'attirer des banquiers qui souhaitent fuir Londres. Et le journaliste se pose la question. Et Amsterdam ? Amsterdam ne fait rien, regrette-t-il. Et il semble effectivement regretter cette absence de plan de marketing post-Brexit de la part des autorités néerlandaises. Et il avance un début d'explication. Amsterdam entretient de bonnes relations avec Londres, qu'elle n'aimerait pas troubler en donnant l'impression de vouloir profiter d'un Brexit.
Éric Scholl, merci beaucoup. Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, vous en pensez quoi, Jean Quatremer ?
C'est vrai que la répartition des dépouilles a commencé. Je sais par exemple que les autorités espagnoles sont allées démarcher des banques installées à Londres pour leur proposer de venir s'installer à Madrid en échange d'une flat tax de 10 à 15%. Les Français eux-mêmes viennent de se mettre en ordre de bataille pour essayer d'accueillir les banques londoniennes. Moi, une autre proposition à faire.
Roulement de tambour.
Oui, je pense qu'il faudrait proposer à Édimbourg d'accueillir la City et proposer à Édimbourg de devenir la place de la zone euro pour faire poussons la Grande-Bretagne à l'éclatement. Moi, je serais assez pour ça. C'est-à-dire, faisons un geste.
Ben, écrivez à Nicolas Sturgeon.
Mais c'est ce que je vais faire un article et que je vais traduire en anglais, proposant effectivement qu'on
merci Maya. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça. 500 millions d'Européens.
On prend la City à Édimbourg parce que et pour remercier les Écossais d'avoir voté à 66%, je crois, pour l'Union européenne.
Les Écossais, ils ont un brevet pour ça. Merci beaucoup une nouvelle fois. Éric Scholl de la rédaction de Courrier International, un précieux partenaire. Merci beaucoup Maya de Labeaume de Politico, un précieux partenaire également. Merci Jean Quatremer de Libération, on n'est pas partenaire.
Un précieux partenaire aussi.
Oui, voilà. Et puis merci évidemment Charles de Marseille de la Fondation Robert Schuman, précieux partenaire. Merci Elisabeth Morin-Chartier. C'est peut-être la dernière fois que je vous appelle Elisabeth Morin-Chartier. Peut-être la prochaine fois qu'on vous accueille dans cette émission, il faudra vous donner du Madame la Présidente.
Si elle vous parle encore.
Si vous nous parlez encore. Merci beaucoup aux équipes du Parlement européen d'avoir mis en image et en son cette émission, toujours avec beaucoup de talent et de bonne humeur. C'est très sympa de travailler ici, vraiment. Merci à Alexandre Rougier de l'avoir préparé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pas toujours facile non plus. Merci pour votre patience et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de 500 millions d'Européens, même jour, même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à tous. À l'écoute, évidemment, de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.